Bonjour à tous. Son nom est inconnu du grand public, mais son influence est considérable. Nicolas Berggruen est un milliardaire qui a créé un institut qui regroupe de nombreux dirigeants européens. Bonjour Benoît Colombat.
Bonjour Jacques.
Vous allez nous expliquer comment il agit en coulisses et quels sont ses liens avec le président français Emmanuel Macron. Et puis nous recevrons Stéphanie Fontaine. Bonjour également.
Bonjour.
Alors vous avez enquêté sur les radars en France, un marché très juteux qui, selon un rapport de l'inspection générale de l'administration, aurait largement profité à Atos, l'ex-société du commissaire européen Thierry Breton.
France Inter, secret d'info, Jacques Monin.
C'était un think tank. C'était des personnes pro-européennes. J'ai tout déclaré. On ne peut pas jeter la suspicion simplement sur le fait qu'une personne a travaillé. Et a travaillé à quoi ? À promouvoir l'intégration européenne.
Voilà, ça c'était Sylvie Goulard, l'ancienne ministre de la Défense, le 2 octobre dernier devant les députés européens. Elle sera finalement d'ailleurs retoquée comme commissaire européen. Alors elle le sera à cause de l'affaire des assistants parlementaires du Modem, certes, mais aussi parce que pendant plus de deux ans d'ailleurs, elle a été rémunérée par un think tank américain, l'Institut Berggruen. Mais qui sait vraiment ce qu'est cet institut et qui est Nicolas Berggruen, son fondateur? C'est donc ce qu'on va voir avec vous, Benoît Colombat. Parce qu'il est vrai qu'on sait assez peu de choses sur lui.
Oui, alors Nicolas Berggruen a 58 ans, il vit aux États-Unis tout en ayant une double nationalité allemande et américaine. Sa fortune est estimée à 1,6 milliard de dollars, mais désormais, il est beaucoup plus qu'un simple homme d'affaires, résume l'un de ses proches, le français Alain Minc.
Nicolas Berggruen essaye de devenir, à sa manière, ce qu'est George Soros, ce pourquoi les Anglais ont un mot qui est « a stateless statesman », ça veut dire un homme d'État sans État. Dans la vie publique, il y a le pouvoir et il y a l'influence. Berggruen veut être du côté de l'influence.
Il veut devenir influent. Maintenant, devenir un homme influent, Benoît, ça ne se fait pas du jour au lendemain.
Effectivement. Et pour le comprendre, il faut revenir sur son histoire. En 1936, son père, Heinz Berggruen, doit quitter l'Allemagne nazie pour les États-Unis. Après la guerre, il s'installe à Paris et devient un marchand d'art réputé, collectionneur de Picasso. Il se marie avec une actrice allemande. Le couple a deux enfants, Olivier et Nicolas. Nicolas Berggruen naît donc à Paris, où il passe toute son enfance.
Donc, il connaît bien notre pays.
Oui, il grandit en France dans un cadre très privilégié. Ses parents l'envoient dans des établissements réputés, l'école alsacienne dans le 6e arrondissement de Paris, et puis dans un pensionnat suisse, l'Institut Le Rosé, surnommé l'école des rois, comme le raconte le journaliste du Nouvel Obs, Vincent Monnier, qui a rencontré Nicolas Berggruen en 2014.
Il y a beaucoup de célébrités, beaucoup de têtes couronnées qui envoient leurs enfants, turbulents ou non, dans ce pensionnat suisse. Il était très turbulent à l'époque, il était aussi très engagé à gauche. Il était, m'a-t-il dit, anarchiste. Et voilà, et donc ça a créé des situations tendues avec le personnel de l'Institut Le Rosé qui n'est pas très anarchiste. Et donc ça lui a valu son renvoi.
Ah oui, il s'est fait renvoyer parce qu'il était trop contestataire.
Oui, alors c'est vrai que ça paraît un peu décalé par rapport au milliardaire qu'il est devenu. C'est pourtant ce que me confirme Nicolas Berggruen lui-même. À l'époque, il refusait même de parler anglais parce que c'était à ses yeux la langue de l'impérialisme. Mmh. Écoutez ses explications en français au téléphone depuis Los Angeles.
J'étais très rebelle. J'étais très opposé à tout ce qui était l'impérialisme, le capitalisme. Donc je parlais même pas un mot d'anglais. J'étais très influencé par tout ce que je lisais en France, plutôt très à gauche. Je lisais Sartre, Camus, mais aussi Nietzsche. Et je me suis dit, après le bac, que je devrais essayer de comprendre le monde réel. Je suis allé apprendre l'anglais et apprendre un peu ce qui se passe dans le monde des affaires à Londres. Après ça, je suis allé m'installer à New York quand j'avais 17 ans pour de nouveau apprendre un peu ce qui se passe dans le grand monde.
Dans le grand monde, ouais, donc le rebelle va évoluer et finalement il va se lancer dans la finance.
Ah oui, très rapidement, Nicolas Berggruen lance son premier fonds d'investissement. Il multiplie les participations dans l'immobilier, la location de voitures ou les grands magasins. Là, c'est un échec lorsqu'il rachète pour 1 euro symbolique l'enseigne allemande Karstadt, alors au bord de la faillite. Nicolas Berggruen investit également dans la presse, notamment à travers le groupe portugais Media Capital, comme le raconte le journaliste Henri Nijdam, qui est alors partie prenante du projet.
J'ai participé à l'organisation d'un tour de table dans lequel Nicolas Berggruen est venu comme investisseur. Il avait certainement cette culture anglo-saxonne qui est de considérer que la presse, c'est d'abord une entreprise comme les autres, gagner de l'argent de manière tout à fait normale et logique.
Gagner de l'argent avec la presse, et je précise que Nicolas Berggruen est assez soucieux de son image dans cette même presse. Il y a quelques années, il a racheté tous les exemplaires d'un journal hollandais qui lui avait consacré un portrait qui apparemment lui déplaisait.
Ouais, c'est assez radical comme décision. Donc ça, c'est pour la presse, Benoît. Maintenant, il est aussi fasciné par le cinéma.
Oui, et depuis quelques années, Nicolas Berggruen s'est installé à Los Angeles dans la somptueuse villa de la fille du fondateur de la métro Goldwyn-Mayer. Et pendant longtemps, l'homme d'affaires s'est affiché comme le grand organisateur des soirées d'Hollywood, explique à nouveau le journaliste Vincent Monnier.
C'est quelqu'un qui organise chaque année, quelques jours avant la cérémonie des Oscars à Los Angeles, il organise une grande fête où il convie le tout Hollywood. Ça se déroule au Château Marmont, qui est un lieu très connu, un hôtel très connu à Los Angeles. C'est un peu Gatsby le magnifique, quoi. C'est quelqu'un qui va devenir influent, ou tenter d'avoir de l'influence, ce qui n'est pas tout à fait la même chose.
Oui, cette influence, Benoît, il ne la cultive pas qu'à Hollywood.
Effectivement, Nicolas Berggruen est également très présent dans tous les forums économiques, comme le forum de Davos, où l'on retrouve les principaux dirigeants de la planète.
Et notamment, un certain Emmanuel Macron.
Oui, alors, on ne le sait pas, mais en fait, leur première rencontre remonte à l'époque où Emmanuel Macron travaillait pour la banque Rothschild, entre 2008 et 2012. À l'époque, Nicolas Berggruen est administrateur du groupe de presse espagnol Prisa, aux côtés d'Alain Minc.
J'avais fait embaucher Macron comme banquier de Prisa. Donc en effet, Macron venait au conseil d'administration de Prisa intervenir sur la restructuration financière de Prisa. Berggruen était un des administrateurs, donc il l'a connu comme ça.
Ouais, ils se sont donc connus chez Prisa. Et c'est ensuite ensemble que Nicolas Berggruen et Emmanuel Macron vont s'intéresser au journal Le Monde.
Oui, alors c'est une bataille qui a lieu entre 2010 et 2011. Prisa et le groupe Orange veulent monter au capital du quotidien. Ils sont opposés à l'offre de Pierre Berger, Xavier Niel et Mathieu Pigas. Et là encore, Nicolas Berggruen et Emmanuel Macron sont en phase, décrypte le journaliste Marc Andevelde, auteur de deux livres enquêtes sur l'actuel chef de l'État.
Quand Alain Minc, le groupe Prisa et le groupe Orange s'intéressent au Monde, effectivement, Nicolas Berggruen est en première ligne et donne des interviews où il donne des explications très précises sur le projet qu'il a pour le journal Le Monde. Et à cette occasion-là, bien évidemment, qu'il en discute avec Emmanuel Macron qui conseille Alain Minc et le groupe Prisa dans l'opération. Et Emmanuel Macron est vraiment en position de banquier d'affaires et de conseil auprès du groupe Prisa, mais également est en dialogue constant avec Nicolas Berggruen.
Et ce dialogue, Benoît, il va se poursuivre ?
Eh bien, selon Alain Minc, la réponse est oui. Cette relation, elle se poursuit lorsqu'Emmanuel Macron devient secrétaire général adjoint de l'Élysée en 2012.
Je l'ai envoyé voir Macron quand Macron était secrétaire général adjoint de Hollande, parce que je trouvais bien que Berggruen puisse exposer à quelqu'un d'ouvert d'esprit ce qu'il faisait. Voilà, c'est aussi simple que ça. Je trouvais que de la même manière qu'il dialoguait avec tous les pouvoirs, il fallait qu'il dialogue avec la France de l'époque, et que dans l'entourage de François Hollande, je considérais que le type le plus à même d'entendre, de comprendre, d'être en phase, c'était Macron.
Mais quel était le message porté par Nicolas Berggruen ?
Il vendait ses idées, comme il le faisait au 10 Downing Street, comme il le faisait à la chancellerie à Berlin, ni plus ni moins.
Ouais, ni plus ni moins. Cela dit, s'il va voir Emmanuel Macron, qui à l'époque est encore secrétaire général adjoint à l'Élysée, hein, c'est aussi parce qu'il sent déjà qu'il y a un coup à jouer.
Oui, c'est en tout cas l'analyse du journaliste Marc Andevelde. Lui estime que dès 2012, donc très tôt, se met en place une série de soutiens à Emmanuel Macron, dont Nicolas Berggruen fait partie.
À l'époque, Emmanuel Macron apparaît comme, on va dire, l'homme à courtiser pour faire passer des messages. Mais ce que j'ai découvert, c'est que Emmanuel Macron se prépare et déjà activement pour sa propre ambition politique. Il multiplie, y compris dans le dos du président de la République, des rencontres entre communicants et grands patrons à l'Élysée même, ça se passe souvent le week-end, hein, à l'abri des regards. À cette période-là, il rencontre Nicolas Berggruen de nouveau à l'Élysée. Donc ce n'est pas uniquement pour faire passer des messages, c'est également tout un environnement qui se met en place où tous ces gens-là des milieux d'affaires s'intéressent grandement à Emmanuel Macron.
Ah, et d'ailleurs, un peu plus tard, Benoît, Nicolas Berggruen va faire partie des donateurs du futur président.
Oui, et il le fait même en famille. On le voit bien dans les Macron Leaks, cette vaste fuite de mails juste avant le second tour de la dernière présidentielle. Son frère, Olivier, un marchand d'art installé aux États-Unis, envoie à l'équipe Macron ce message que nous avons fait lire.
J'ai rencontré Emmanuel Macron en décembre et serais intéressé de contribuer à sa campagne. Dans l'immédiat, je propose de donner 4000 euros au mouvement et 4000 euros au candidat. Mon frère, Nicolas, transmet de Los Angeles ses amitiés à Emmanuel Macron, qu'il connaît mieux que moi, et nous vous souhaitons tout le succès que vous méritez.
Alors ça, c'est pour le frère. Mais Nicolas Berggruen, donc, lui aussi, il met la main au portefeuille.
Oui, et c'est ce qu'il nous confirme aujourd'hui, et il assume parfaitement son choix.
Vous avez une chance énorme, et pas seulement la France, mais l'Europe et le monde a une chance énorme d'avoir Emmanuel Macron en tant que président.
Est-ce que vous avez soutenu financièrement sa campagne, comme votre frère, Olivier ?
Oui, j'ai mis ce qu'on pouvait mettre légalement, parce que je trouvais qu'il était formidable. Et heureusement, il est devenu président.
Inter. Secret d'info, Jacques Monin.
Alors maintenant qu'on a vu comment Nicolas Berggruen est devenu un homme d'affaires influent et quels sont ses liens avec le président français, eh bien entrons un peu plus dans le détail de ce qu'est son institut, Benoît Colombat.
Oui, alors sur le papier, l'institut Berggruen se présente comme un groupe de réflexion qui s'appuie sur plusieurs cercles. Vous avez d'abord un groupe américain censé réfléchir à l'avenir de la Californie, où l'on retrouve notamment le patron de Google ou l'ancienne secrétaire d'État de l'administration Bush, Condoleezza Rice.
Alors ça, c'est pour le premier cercle.
Mais vous avez ensuite un deuxième groupe consacré, lui, à l'Europe, qui s'appelle le Conseil pour le futur de l'Europe, et dans lequel on retrouve quasiment tous les anciens responsables européens, comme Tony Blair, Jacques Delors, Gerhard Schröder ou Felipe González. Nous défendons l'économie de marché et l'Europe, explique Alain Minc, lui aussi membre de ce conseil.
C'est une organisation qui est destinée à promouvoir l'idée européenne, l'unification européenne. On se réunit une ou deux fois par an. Berggruen fait le tour des responsables politiques pour plaider les idées qui sortent de cet organisme et suscite quelques réunions publiques. Voilà, ça va pas casser une patte à un canard. Hein.
Ça ne casse pas une patte à un canard. Cela dit, si on y regarde de plus près, vous l'avez dit d'ailleurs, on y trouve quand même des personnalités qui pèsent en Europe.
Bah oui, on le voit par exemple lors de ce colloque organisé par l'Institut Berggruen le 28 mai 2013 à Sciences Po Paris. Dans l'assistance, on trouve plusieurs ministres du gouvernement français de l'époque, un ancien Premier ministre, François Fillon, le président du Parlement européen, Martin Schulz, ou encore des ministres allemands comme Wolfgang Schäuble ou Ursula von der Leyen, l'actuelle présidente de la Commission européenne qui est alors ministre du Travail.
Oui, il y a même un président de la République.
Et oui, en l'occurrence François Hollande, qui fait ce jour-là l'éloge de Nicolas Berggruen.
Je veux remercier M. Berggruen pour l'initiative qu'il a prise, pour le dévouement qui est le sien et pour la capacité exceptionnelle de rassembler autant de personnalités.
Ouais, c'est un hommage appuyé, effectivement, que rend François Hollande. Et à la tribune, ce jour-là, d'ailleurs, on remarque une autre personnalité.
Bah oui, Sylvie Goulard, qui est présente comme députée européenne. 5 mois plus tard, elle sera donc recrutée par l'Institut Berggruen comme consultante. C'est l'ancien président du Conseil italien, Mario Monti, qui nous a conseillé de faire appel à elle, m'a expliqué Nicolas Berggruen.
Bien, alors là, on vient de voir ce que fait son institut en Europe. C'est ce que vous avez appelé le deuxième pilier. Maintenant, cet institut, il s'appuie encore sur un troisième pilier.
Oui, une structure baptisée Conseil du 21e siècle qui se réunit une fois par an à New York. On y retrouve certaines têtes d'affiche du Conseil pour le futur de l'Europe, mais aussi d'autres noms comme Nicolas Sarkozy, le réalisateur américain James Cameron, le patron de SpaceX et de Tesla Elon Musk, le PDG de Free Xavier Niel ou encore l'ancien directeur général de l'Organisation mondiale du commerce Pascal Amy, qui nous détaille les sujets abordés.
Ce sont des grands sujets comme la technologie, l'avenir de l'intelligence artificielle, de la biotechnologie, des États-Unis, de la Chine, de l'Afrique. Est-ce que ça sert à de l'influence? Certainement, étant entendu que le pouvoir, c'est l'influence plus les emmerdements. L'influence, c'est le pouvoir sans les emmerdements, et c'est pour ça d'ailleurs que ce sont des discussions très libres, parce qu'elles sont en général très confidentielles.
Ouais, donc l'objectif, c'est d'exprimer des idées. Maintenant, ces idées, Benoît, est-ce qu'elles sont lancées en l'air ou est-ce qu'elles débouchent sur des faits, c'est-à-dire est-ce qu'elles s'appliquent sur le terrain?
Alors, si on reparle de l'Europe, c'est le cas, oui. Tout ce qui tourne, par exemple, autour d'un budget européen est maintenant relayé par l'ancien commissaire européen à la concurrence, l'italien Mario Monti, qui fait partie de l'Institut Berggruen, comme l'explique encore Pascal Lamy.
Le rapport qu'a fait Mario Monti sur l'idée de doter le budget de l'Union européenne de ressources propres, alors que pour l'instant, les contributions nationales qui sont calculées de manière extrêmement bureaucratique, c'est une idée qui a été présentée, débattue, dans des discussions, dans les séminaires Berggruen. C'est le genre de truc qui a été un peu maturé, conçu, cuit dans des tuyaux de ce genre.
C'est avec ce genre de truc que se cuisent les politiques européennes, dit Pascal Lamy. Mais derrière ces idées présentées comme nouvelles, il y a quand même beaucoup, on l'a vu, d'anciennes figures de la politique européenne.
Oui, et pour l'économiste Frédéric Farah, enseignant à Paris 1 Panthéon-Sorbonne et spécialiste des questions européennes, c'est toute la limite d'un tel institut.
Derrière une apparente modernité de ce think tank qui doit apporter de la rénovation, en fait, on reprend les mêmes personnages qui sont dans le décor politique économique depuis 30 ans, et même davantage pour certains, et qui, finalement, ont une nouvelle vie. En quelque sorte, sont recyclés. On retrouve les personnages qui ont dessiné dans l'Europe d'aujourd'hui. Romano Prodi, Jacques Delors. Ce sont ces figures-là qui ont fait l'Europe du marché unique, qui ont fait l'euro, et qui lui ont donné, finalement, cette orientation que beaucoup de citoyens aujourd'hui au niveau européen ne veulent plus.
Ouais, cette orientation, Benoît, elle est donc soutenue par l'Institut en tant qu'institution, quoi. Mais il arrive aussi que Nicolas Berggruen, en tant que personne, monte lui-même en première ligne pour promouvoir ses idées.
Oui, depuis plusieurs années, Nicolas Berggruen se met sur le devant de la scène. Il participe à des conférences, il écrit aussi des livres. Le dernier s'appelle « Rénover la démocratie ». Alors son credo, c'est organiser plus de référendums grâce à la technologie, mais sur des sujets consensuel qui serait en quelque sorte dépolitisé. Écoutez là-dessus ce que dit Nicolas Berggruen.
Il faut des nouvelles solutions. Les référendums eux-mêmes sont très très politisés. Et la question, c'est est-ce qu'on peut trouver de nouvelles formules? Et nous, on a pensé à des assemblées un peu comme des jurys qui peuvent analyser différentes questions. L'idée, c'est d'avoir beaucoup plus de consultations et d'essayer de dépolitiser les questions qui sont résolues surtout par des votes. Et on trouve que les votes, c'est devenu beaucoup, beaucoup trop politisé.
Les votes, c'est devenu trop politisé?
Oui, alors, c'est en tout cas ce que lui soutient dans son discours. En fait, Nicolas Berggruen aimerait qu'on sépare les sujets consensuels à ses yeux des sujets conflictuels qui, selon lui, ne devraient pas être réglés par le vote. Et ça, eh bien, ça pose problème pour l'économiste Frédéric Farah.
Moi, ce qui me frappe, aussi étrange que ça puisse paraître, c'est la peur de la démocratie. Parce que il le dit qu'il veut des comités de citoyens les moins politisés possibles, que pour lui, la démocratie, ce serait quelque chose de dépolitisé, alors que c'est vraiment mal comprendre ce qu'est la démocratie. La démocratie, c'est le lieu du désaccord, des passions. Et donc, en fait, il rêve cette chose qui nuit à l'Europe, qui est le gouvernement technique.
Ouais, donc la démocratie devrait, selon lui, aller vers une gestion, si on l'entend, hein, moins politique, plus technique. Maintenant, il a aussi un discours sur ce que devrait être l'évolution du capitalisme lui-même.
Oui, alors, il sent bien, comme tout le monde, c'est une évidence qu'il y a une crise du capitalisme, mais face à cela, il propose en quelque sorte de garder le même logiciel, mais en effectuant, disons, quelques mises à jour.
C'est-à-dire ?
Bien, en résumé, il propose de transformer les salariés en actionnaires et il prône un engagement dans ce que les anglo-saxons appellent le « charity business ».
Alors, on va expliquer ce que c'est.
Eh bien, c'est ce que défendent le milliardaire Warren Buffett et Bill Gates, notamment. Ils encouragent les grosses fortunes à donner leur argent pour des actions philanthropiques. Ça s'appelle « The Giving Pledge », promesse de don. Nicolas Berggruen a rejoint leur campagne. Car, selon le directeur de la rédaction du Nouvel Économiste, Henri Nijdam, il partage en fait la même vision des choses.
Ce sont des gens qui considèrent que l'État n'est pas toujours le meilleur redistributeur de richesses. Et donc c'est un mouvement américain dans lequel Nicolas Berggruen s'est tout à fait inscrit. Il le fait au travers d'une fondation dont l'objectif est réellement de contribuer à rénover, réformer deux éléments fondamentaux que sont le capitalisme et la démocratie.
Donc ce serait remplacer l'État redistributeur par l'entreprise redistributrice.
Oui, alors c'est ça l'idée. Et pour le journaliste Lionel Astruc, auteur d'un livre enquête sur la fondation Bill et Melinda Gates, ça n'est pas un hasard.
L'intention des membres du Giving Pledge, leur point commun en tout cas, c'est surtout de ne pas remettre en question un système qui a conduit 1% de la population mondiale dont ils font partie à posséder la moitié des richesses. Ce que leur a offert Bill Gates en créant avec Warren Buffett le Giving Pledge, c'est au fond un outil de communication, une stratégie de communication qui consiste à un retournement d'image, d'avoir l'image de grands donateurs à travers ce qu'on appelle le philanthrocapitalisme. Et du coup, conforter leur position et leur idéologie.
Ouais, d'autant plus que ce philanthrocapitalisme, Benoît, il a des limites parce que si l'on observe de près la galaxie des sociétés de Nicolas Berggruen, mais on se rend compte qu'il se débrouille très bien pour échapper à l'impôt.
Oui, avec Abdelhak El Idrissi de la cellule investigation de Radio France, nous avons épluché les sociétés de la galaxie financière de Nicolas Berggruen et ce qu'on constate effectivement, c'est que la plupart de ces structures sont domiciliées dans des places offshore.
Par exemple ?
Eh bien, son trust dédié aux actions charitables est aux Bermudes, tout comme sa société Institut Berggruen. C'est aussi le cas de sa holding, domiciliée aux îles Vierges britanniques et de plusieurs sociétés qui apparaissent dans les Panama Papers et les Paradise Papers. Mais c'est aussi le cas de son patrimoine immobilier français. Il est géré par une structure luxembourgeoise qui elle-même dépend d'une société basée aux Bermudes. Et ce n'est pas un hasard, explique le spécialiste des paradis fiscaux Éric Vernier.
La logique, elle est toujours le levier fiscal, c'est-à-dire la rentabilité financière maximale en payant le moins d'impôts possible, y compris là où nous sommes implantés. Et donc des profits qui ne sont pas taxés là où ils sont gagnés. Rien n'est illégal dans le montage, c'est juste qu'il y a en quelque sorte une dissonance entre faire le bien, réfléchir à un monde meilleur et être installé dans des endroits que l'on sait délétères pour l'économie mondiale et l'équilibre mondial.
Donc Éric Vernier y voit une contradiction. Maintenant, dans la galaxie offshore de Nicolas Berggruen, Benoît, vous avez aussi découvert le nom d'un Français dont on a déjà parlé dans cette enquête.
Oui, il s'agit d'Alain Minc, lui-même membre de l'Institut Berggruen. En 2013, il apparaît aux côtés de Nicolas Berggruen dans une société immatriculée aux îles Vierges britanniques. Je lui ai demandé pourquoi et voici sa réponse.
C'est une société cotée en bourse destinée à faire des acquisitions. Et il m'avait demandé à ce moment-là d'en être un des administrateurs. Et ce que j'ai fait jusqu'au moment où cette société a fusionné avec Burger King, et là j'en suis sorti parce que l'idée d'aller tous les mois en conseil d'administration à Miami n'était pas exactement le genre de vie dont j'ai envie.
Et dans les archives, on voit que vous avez 0,01% de cette société et que vous avez une option de 5 ans pour acheter 75 000 actions à $11.50.
Oui, je sais plus, j'ai dû acheter puis les revendre. Enfin, ça n'a pas été le deal du siècle.
Ouais, donc Alain Minc relativise, mais Nicolas Berggruen, lui, il les justifie comment ces montages offshore ?
Eh bien, il explique qu'il fait comme tout le monde et qu'il s'en remet au bon conseil de ses avocats. Voilà ce qu'il répond lorsque je lui demande pourquoi il a domicilié plusieurs de ses structures dans des paradis fiscaux.
Ça été créé comme ça, je crois, il y a 40 ans. Donc ça n'a pas changé. Il y a beaucoup d'instituts caritatifs qui sont aux Bermudes. C'est un endroit qui existe depuis longtemps pour tout ce qui est fondation. Ce sont des avocats qui font ce travail. C'est eux qui nous guident, là.
Mais vous, Nicolas Berggruen, vous ne voyez pas de contradiction entre l'utilisation de toutes ces places offshore et votre discours sur la critique, la rénovation du capitalisme ?
Quelle serait votre proposition ? Quelle est l'alternative ?
Il faudrait presque créer un think tank pour y répondre.
Oui, je précise que sa porte-parole nous a ensuite expliqué que les sociétés liées à Nicolas Berggruen dans les paradis fiscaux étaient selon elle peu importantes avec une activité dormante depuis plusieurs années.
Et on en prend bonne note. Merci Benoît Colomba. Alors je précise que votre enquête, on peut la réécouter, la lire ou la podcaster sur franceinter.fr et sur l'appli France Inter. Vous pouvez également nous y laisser vos commentaires, tout comme vous pouvez le faire sur la page Facebook de la cellule Investigation de Radio France ou encore sur Twitter, Investigation RF. Mais surtout, restez avec nous. Dans un instant, Atos, l'ex-société de Thierry Breton, a-t-elle profité du marché des radars automatiques en France ? La question se pause et on va en parler avec notre invité. C'est envoûtant comme un halo qui vous enveloppe. C'était Touch, extrait du dernier album du groupe américain de Greg Gonzalez, qui répond au nom très évocateur d'ailleurs de Cigarette After Sex.
Secret d'info, Jacques Monin, sur France Inter.
Alors nous recevons maintenant Stéphanie Fontaine, bonjour.
Bonjour.
Avec Jacques Duplessis, Lizzie Treux et Antoine Champagne, vous avez réalisé un documentaire qui est consacré aux radars automatiques en France. Et vous vous êtes particulièrement intéressé à Atos, c'est-à-dire l'ex-société de Thierry Breton, qui est l'actuel commissaire européen. On va voir pourquoi précisément, mais d'abord peut-être ce qu'il faut quand même préciser, c'est que les radars, c'est un marché très juteux et c'est un marché qui date du début des années 2000.
Oui, tout à fait. Ça commence en 2003, en fait, pour la petite histoire. C'est Jacques Chirac qui est réélu donc en 2002 et qui annonce qu'il a trois grands chantiers. Et parmi ces trois grands chantiers, il y a l'amélioration de la sécurité routière. À ce moment-là, je pense que Jacques Chirac ne sait pas, enfin, il ne veut pas spécialement mettre en place des radars automatiques. Il veut mettre l'accent sur la sécurité routière. Et du coup, effectivement, le système automatisé des infractions qui se met en place en 2003, c'est surtout un gros centre informatique. Tous les PV, en fait, adressée en France transite par ce Centre National de Traitement de Rennes. Et ce Centre National de Traitement de Rennes, qui ressemble beaucoup à un centre informatique, eh bien, il faut une boîte informatique, finalement, pour gérer. Et ça a été pendant de très, très, très nombreuses années Atos qui a géré ce centre de Rennes.
Alors, on y arrive. Donc, ce marché est confié en grande partie à Atos. Et là, vous mettez la main sur un rapport de l'IGA, l'Inspection Générale de l'Administration, qui se dit que finalement, dans la passation de ce marché, dans les tarifs qui sont pratiqués, il y a peut-être quand même des questions à poser.
Oui, tout à fait. En fait, ils font une enquête en 2013 et effectivement, l'IGA constate... Alors, elle parle absolument pas d'illégalité, hein, mais elle fait une liste quand même assez importante de dysfonctionnements où on voit que, le fait d'avoir confié un marché global à une seule et même entreprise fait que, il y a plus de concurrence qui se joue et donc, du coup, il y a des prix qui sont très, très élevés.
Et quand vous dites marché global, c'est vraiment quasiment tout, c'est-à-dire y compris la cantine, les espaces verts, l'arrosage des plantes, le ménage et c'est des choses dont on peut penser qu'on aurait pu les confier à d'autres sociétés.
C'est ça, en fait. Atos s'occupe de tout, alors que c'est une société informatique. Il ne s'occupe pas seulement des développements informatiques, mais de tout à Rennes, de la sécurité, en passant par le nettoyage, vous avez tout compris. Alors, pour coordonner tous ces sous-traitants, Atos...
Faut préciser ça, parce que effectivement, ça peut s'entendre, après tout, qu'on confie un gros marché dans son intégralité à une société. Mais là, en l'occurrence, elle a recours à 25 sous-traitants parce qu'elle ne peut pas tout faire. Mm-hmm. Et il y a un petit souci, là aussi.
Oui, il y a un petit souci, parce qu'elle est quand même payée, en tout cas, selon l'Inspection Générale de l'Administration, elle est payée pour refaire ce travail de coordination. Elle est payée 10 millions d'euros sur la durée du marché. Et en fait, au moment de l'enquête de l'IGA, l'IGA se rend compte que, en fait, Atos se prend une marge supplémentaire sur chacun de ses sous-traitants. Le rapport dit surtout que c'est des marges donc complètement évitables.
Quand vous dites se prend, c'est-à-dire, en gros, elle facture le sous-traitant et elle refacture à l'État ce qu'elle paye plus. 20%, 22%, ça peut monter jusqu'à 22%.
C'est ça. C'est-à-dire que.
Donc, à l'État ou contribuable.
Concrètement, elle se paye deux fois, sur les sous-traitants. Et donc, on sait juste, l'IGA dit que c'est des marges confortables et parfaitement évitables. Et elle ne donne qu'un exemple vraiment sur un de ses principaux sous-traitants, en prenant l'exemple de Docapost, qui est le principal sous-traitant d'Atos. Et ça, pour le coup, on a l'IGA dit que ça peut monter jusqu'à 22% et dit que donc pour l'année de l'enquête, là, en 2013, ça a représenté plus de 4 millions d'euros.
Il y a un questionnement d'ailleurs plus général sur les prix qui sont pratiqués. Alors, vous donnez des exemples. Vous dites, par exemple, pour virer le loyer du centre de Rennes, Atos facture 300 000 euros par an. Alors, ça veut dire quoi, ça?
Eh bien...
Virer le loyer, il suffit de faire un transfert.
Oui, c'est ça. Oui, mais concrètement, c'est ça. Ça s'est quand même arrêté avant le rapport de l'IGA, mais le rapport de l'IGA le rappelle, et c'est comme ça qu'on sait que pour s'occuper de la gestion de ces baux de location, cela correspond à une somme à peu près de 300 000 euros par an.
Vous évoquez aussi un site web qui est évalué 1,7 million par Atos, alors que les experts l'évaluent à 700 000 euros.
Ça, pour le coup, ce sont par nos sources qu'on apprend cette information, et notamment par ce commissaire divisionnaire que vous avez vu dans le documentaire, Serge Bluge, qui a travaillé pendant plusieurs années donc à l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions, et il a accepté donc de témoigner face caméra pour lui de tous ces dysfonctionnements, et il nous donne l'exemple de ce site web, mais c'est corroboré par une autre source, par un autre témoignage. C'est vrai que c'est troublant.
Ouais. Alors, il y a une autre question que vous posez, c'est qu'en 2006, l'État va confier à Atos, encore lui, la gestion des PV sur tablette. Et ça se fait à la demande de Bercy. C'est-à-dire, Bercy veut qu'on joigne la gestion de ces PV sur tablette, c'est-à-dire en gros les PV numériques, de joindre ça finalement à la gestion des radars. Or, qui est à la tête de Bercy à ce moment-là? Thierry Breton, qui, 3 ans plus tard, prend la tête d'Atos. Donc là, il y a la question aussi de l'intérêt qu'il aurait pris à diriger une société après lui avoir confier finalement un marché supplémentaire.
Tout à fait. En 2006, la décision est prise de développer ces procès-verbaux électroniques. Donc en fait, ça concerne à ce moment-là le stationnement, mais en fait, ça concerne toutes les infractions. C'est-à-dire que les agents verbalisateurs, au lieu de verbaliser en prenant leur canet à souche, vous savez, papier, effectivement, ils dressent les PV de manière électronique. Donc, pour le coup, je veux dire, c'est pour, en fait, traiter de manière automatisée tous ces procès-verbaux. Bon, ça semble relativement logique, finalement, avec l'évolution de notre temps, mais ce qui est quand même troublant, c'est que la manière dont ça s'est fait, c'est-à-dire que ça n'a pas fait partie d'un marché à part, ça a été mis effectivement
au sein...
Ça a été joint
à la gestion des radars.
Exactement, à la gestion informatique de tout ce centre de Rennes et qui allait à Athos. Et
le rapport,
voilà, et le rapport de l'IGA, il dit, bah, en mettant en plus cette prestation en plus dans le marché, eh bien, ça réduisait encore plus la concurrence. Donc forcément, ça soulève question. Et quand on fait tout l'historique et qu'on voit un petit peu comment ça s'est passé, c'est vrai que c'est assez troublant de voir que c'est Thierry Breton qui, à ce moment-là, est ministre de l'économie et des finances.
Alors, il faut préciser que ce rapport de l'IGA, il aura des conséquences, puisqu'en 2014, les marchés ont ensuite été scindés. Maintenant, se pose la question de ce qu'en dit Thierry Breton. Il a refusé de vous parler.
Oui. Il a refusé. Et en fait, on a fait des demandes d'interview. On a aussi fait des demandes d'une manière générale d'interview avec même d'autres personnes d'Atos qui étaient au courant de la gestion de ce centre de Rennes. Ça n'a jamais été accepté. Et du coup, c'est comme ça qu'on est allé le rencontrer.
Lors de son audition au Parlement européen, où il ne vous répond pas d'ailleurs. On voit les images. Bon, après, on peut se dire que c'était pas forcément le meilleur moment non plus pour le mettre à l'aise et lui permettre de s'exprimer.
C'est sûr.
En revanche, ce qu'il faut préciser aussi, c'est que l'association Anticor, elle, a déposé une plainte avec constitution de partie civile et que du coup, deux juges sont en train d'instruire cette affaire-là.
Oui, Anticor a déposé une première plainte en 2015. Donc quand même, ça fait 4 ans. Moi, ma connaissance, selon mes informations, et selon même Anticor...
Plainte qui n'a donc pas débouché.
Bah, la plainte, elle a débouché en... Quand même, la justice a considéré qu'effectivement, il y avait matière à se poser des questions, sans doute, puisque elle a quand même, ça a quand même débouché sur l'ouverture d'une enquête préliminaire.
Mais 4 ans après, pas d'acte.
Voilà, il y a a priori pas d'acte.
Et c'est pour ça qu'Anticor a donc déposé une plainte avec constitution de partie civile, puisque dans ce cas-là, c'est la plainte qui déclenche l'ouverture de l'information judiciaire. Donc ça ne préjuge en rien de ce qui va se passer, mais en tout cas, c'est comme on dit, une affaire à suivre.
Voilà.
Bien, merci Stéphanie Fontaine. Alors je rappelle que votre documentaire, qui s'appelle Radar, la machine à cash, est visible sur plusieurs plateformes internet, dont Mediapart, Reflet, Thinkerview, et même une plateforme qui est spécialisée dans l'automobile et qui s'appelle Caradisiac. C'est la fin de Secret d'Info, une émission préparée par Martin Broyer et réalisée par Christophe Imbert. La programmation musicale était signée, comme chaque semaine, Jean-Baptiste Audibert, et à la technique, il y avait Serge Viguier et Tiffany Battistel. Dans quelques instants, Emmanuel Kérad va recevoir Daniel Pénac pour son nouveau roman La loi du rêveur. Je vous souhaite en attendant un excellent week-end et je vous dis à samedi prochain.